quand tu veux.
Et ben, alors attends, faut que je me mette dans mon truc aussi. Alors, donc on est avec Marc et Philippe. Merci d'être venus et on va parler avec vous de la lutte du Larzac et aussi des liens que ça a pu faire pour vous qui y avez un peu participé, si on a bien compris, avec les débuts de Bécourt. Du coup, ma première question, c'est, bah, vous êtes de Millau, vous êtes du groupe de Millau tous les deux, c'est ça?
Ouais.
Et vous étiez Respo et...
Ben, si tu veux, bon, enfin, ce que je peux raconter, c'est comment je suis rentré dans le scoutisme. Donc, sur Millau, il n'existait pas de groupe éclaireur de France à cette époque-là. Tout au moins à la branche éclaireur. Mes parents, qui étaient plutôt d'origine catholique, ont essayé de m'inscrire sur les scouts, il n'y avait pas de place. Donc, ils ont été voir le pasteur et ils m'ont inscrit aux éclaireurs unionistes, où j'ai retrouvé Marc et quelques autres, on n'était pas très nombreux. Et donc, ma première année de scoutisme et mon premier camp, c'est chez les éclaireurs unionistes. Et l'année d'après, le responsable du groupe, disons, unioniste, a décidé de passer chez les éclaireurs de France.
Et vous êtes passé avec lui.
Et donc, nous avons déménagé avec une charrette à bras, qui est antidéluvienne. Nous avons déménagé tout le local, le totem, tout, dans le local des éclaireurs de France. Éclaireuses et éclaireurs de France. Voilà.
Alors, ça a évidemment créé un scandale chez les protestants de la communauté millevoise. Et parce que moi, par contre, donc j'ai commencé très tôt. J'avais 6 ans, 7 ans, et j'étais louveteau unioniste. Mes parents étaient protestants, j'ai eu une éducation protestante. Et voilà. Et donc, c'était tout tracé. C'était ensuite les éclaireurs unionistes. Et donc, j'ai fait toute ouais, jusqu'à l'âge, je devais avoir 14-15 ans, quand on est passé avec armes et bagages chez les éclaireurs, éclaireuses et éclaireurs de France. Voilà. Et évidemment, ça a fait un peu scandale.
Alors, et du coup, donc, vous êtes de Millau, donc vous n'étiez pas très loin du plateau du Larzac. Est-ce que vous y avez pris une part à cette lutte-là?
Voilà, donc là tu viens de dire quelque chose qui est très gênant pour les autochtones, c'est que vous n'étiez pas loin du plateau du Larzac. Donc en réalité, si tu veux, la lutte du Larzac a démarré plus par les gens de Millau que par les paysans. C'est quelque chose qui est assez inconnu. Justement, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. C'est qu'en réalité, les premières manifestations et tout ça, il n'y avait pas de paysans.
Mais ça, vous y étiez, des gens de Millau y étaient.
Oui, voilà. Ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans l'après 68, il y a eu dont Marc était à cette époque-là première terminale, terminale en 68.
Je me trompe pas. Ça. J'ai réussi
à rater le bac.
À rater le bac en 68. fallait le faire. Le type fallait y mettre de la motivation. 68, c'est lui. Alors j'en ai trouvé d'autres depuis.
Ah oui.
Ouais, je connais deux autres personnes dans le monde de la pierre sèche qui ont raté le bac en 68.
Bravo.
Oui, c'est. Je crois que là, ça, c'était assez rare.
Ah, c'est une belle
histoire. Voilà. Fallait y mettre de la bonne volonté, disons. Voilà.
Donc effectivement, il y a mis beaucoup de bonne volonté parce qu'il s'est engagé fortement dans le mouvement de mai. Et donc le lycée, tout ça était en ébullition, la vie était en ébullition. Et c'était une période où vraiment il y avait du mouvement. Dans la ville, c'était encore une ville ouvrière, c'était un peu la fin de toute une période où il y avait des grosses usines sur Millau, dans la ganterie, dans la mégisserie. La mégisserie, c'est comme la tannerie, mais ça s'adresse aux peaux souples, c'est-à-dire les peaux d'agneau, les peaux qui te permettent de faire des vêtements ou des gants.
D'accord.
Contrairement à la tannerie. Alors, il y avait des villes spécialisées dans la tannerie et d'autres dans la mégisserie, et Millau était spécialisé dans la mégisserie. Entre autres, avec une bourgeoisie protestante qui était propriétaire des usines, souvent, et par contre, un prolétariat catholique.
D'accord. Et donc, du coup, vous êtes là, toi, tu es en terminale, toi, du coup, tu es plus jeune.
Fou, moi, j'étais quoi, en quatrième ou troisième ?
Sans doute, ouais, un truc comme ça.
Et alors, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eux, nos grands aînés ont agité un petit peu le bocal, puisqu'il faut imaginer qu'à l'époque, tout était assez rigoriste, avec, tu vois, il y avait distribution des prix à la fin de l'année au lycée, avec tous les professeurs en toge, etc., etc. C'était très... C'était une société qui était un peu bloquée. Après une période avec des gens, des adultes qui à ce moment-là avaient vécu la guerre, après aussi la guerre d'Algérie qui avait été quelque chose d'assez violent pour toute la jeunesse. Et donc, quelques années après, il y a eu une espèce de ras-le-bol de la jeunesse par rapport à une société complètement sclérosée, gouvernée par un vieillard qui était de Gaulle. Qui avait certainement fait des grandes choses, mais qui, à ce moment-là, si tu veux, tout était corseté, la télé, tout ça, on n'imagine pas maintenant ce que ça pouvait être. C'est-à-dire, le ministre de l'Information venait dire aux journalistes ce qu'il fallait qu'ils passent, etc., etc. Donc c'était quelque chose qui était révoltant pour les jeunes à ce moment-là. Sachant qu'il y avait aussi une hausse du pouvoir d'achat tout au long des années 60 et qui faisait que les gens commençaient à avoir de l'argent, donc pouvoir partir en vacances, donc avaient besoin de liberté. Donc à ce moment-là, la jeunesse qui est apparue à ce moment-là, elle a eu envie de casser tous ces codes, de casser les séparations filles-garçons, parce qu'il y avait des lycées de filles et des lycées de garçons, on ne se mélangeait pas. Il y avait tout un tas de trucs, donc dans l'idée, ben, pourquoi on ne va pas se retrouver, pourquoi ceci, pourquoi c'est interdit, pourquoi... Et donc ça a fait qu'il y a eu une grande révolte à un moment donné, à un moment où le pouvoir ne l'attendait pas.
Ok. Et donc du coup, vous êtes pris là-dedans ?
Oui, alors ouais. Ça c'était, bon, les événements de mai 68, voilà. Quoi. Et donc moi j'étais pris là-dedans au lycée, on occupait le lycée, enfin il y avait... Il y a eu toute une action militante qui s'est développée à ce moment-là. Voilà. Et moi, j'étais déjà politiquement adhérent au MCA, donc le mouvement contre l'armement atomique. On était toute une bande à tendance anarchiste, quoi, à se rencontrer souvent, à discuter, à débattre, Voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu à ce moment-là une évolution chez les jeunes de Millau et beaucoup de capacité à se rencontrer, à discuter. Et on était révoltés, quoi. On était révoltés contre le système dans lequel on vivait. Mais en général, on était des enfants de petits bourgeois, quoi, hein. On était d'un milieu assez élevé qui avait accès au lycée, etc. Ce que n'avaient pas des jeunes de notre âge, de milieux plus défavorisés.
Il faut imaginer qu'à l'époque, il n'y avait que 20% d'une classe d'âge qui allait au bac. Donc c'est complètement inversé avec la situation actuelle, même plus voilà, qu'inversé. Marc dit anarchiste, c'était pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc... Il y avait eu le stalinisme, donc les jeunes n'étaient pas du tout attirés par le PC, et par, qui était lui aussi, en 68, assez sclérosé, qui a essayé de tenir la soupape sur la révolte, parce qu'ils avaient peur après qu'il y ait un coup d'État ou que ça fasse militaire ou un truc comme ça. Donc ils maintenaient le mouvement social dans un cadre très rigide et ils n'appréciaient pas du tout justement tous ces jeunes bourgeois dont parlait Marc, qui sont les gens qui ont fait mai 68. Okay. Ce qui fait que les jeunes se sont tournés vers quelque chose qui semblait différent, qui était le maoïsme. Alors maintenant, avec le recul, on se rend compte que c'était une connerie monumentale. Mais le maoïsme, le retour à la terre, le retour dans les usines, des jeunes dans les usines, etc., etc., c'est ce que faisait Mao en Chine. Et il le faisait de manière très autoritaire, très stalinienne. Sauf qu'ici, c'est apparu comme quelque chose d'extraordinaire, de beau et tout ça. Les jeunes étudiants allaient fraterniser avec les ouvriers dans les entreprises, etc. Et c'est un peu dans cette démarche-là qu'était Marc à ce moment-là. C'était pas vraiment de la... Enfin, c'est... tu dis anarchiste, mais c'était pas vraiment ça.
Ouais, mais parce que... on est tout un groupe à être passé d'abord par un peu une position anarchiste, et ne serait-ce que par nos lectures de, voilà, de l'époque, hein, Proudhon, etc. Ouais. Et on était assez branchés là-dessus. Et après, ça, c'est vrai que s'est développé en France ce que j'appellerais l'anarcho-maoïsme. Ouais. Et on s'est enfilé un peu là-dedans, en se disant, tiens, ça a l'air vraiment bien ce qui se fait en Chine, etc. Et puis, bon, évidemment, on s'est aperçu peu à peu des monstruosités que ça véhiculait aussi. Mais on réagissait beaucoup plus par rapport au communisme tel qu'il était défini par le Parti communiste français, qui était une antenne de ce qui se passait en URSS, et on réagissait à ça parce que là-dessus, on avait beaucoup d'informations sur les exactions qui étaient commises en URSS, et on n'en avait pas encore sur ce qui se passait en Chine, qui était présenté comme vraiment...
idéalisé, complètement idéalisé.
Ouais, c'était idéalisé complètement, et s'est engouffré là-dedans.
Et avec une propagande chinoise très forte, c'est-à-dire qu'ils éditaient tout un tas de petits livres, les éditions de Pékin, éditaient tout un tas de petites plaquettes qu'ils distribuaient généreusement en France.
Et du coup, c'est comme ça que...
Juste, on va faire une pause, parce que ton micro, j'ai l'impression qu'il ne marche pas.
Oui.
Je ne sais pas c'est quoi.
Mais pas du tout ou...
J'ai l'impression que je t'entends dans le retour comme si c'était... Il parle dedans, là, pour voir.
Je parle.
Oui, c'est ça. Bon, d'accord. Vas-y, recommence.
Je parle.
D'accord, très bien. C'est bon.
Et du coup, donc je peux parler ?
Oui, c'est bon.
Et du coup, toi Marc, c'est comme ça que t'es devenu maçon alors, si j'ai bien compris ?
Alors,
oh là, c'est un peu plus loin.
C'est plus tard, ça.
J'ai sauté les étapes.
Ouais,
okay.
Ouais.
Alors, revenons-en à vous êtes au lycée, et puis vous entendez parler d'un camp, c'est ça ? Vous êtes d'un camp sur le Larzac, l'extension du camp militaire.
Alors ça, c'est arrivé un peu plus tard.
Ah ouais.
c'est trop rapide.
C'est arrivé en 71. En fait, la déclaration d'un secrétaire d'État qui s'appelait Fanton et qui...
C'est pas possible que vous parliez là, par contre. On vous entend à fond. Du coup, il faut que vous...
Parliez ailleurs.
Style de chuchotage, ça marche pas. Désolé.
Et tu la réveilles et tu vois...
Oh, je sais pas qui c'est.
Tu vas essayer Corail, le Coutarel.
Donc je reprends la
parole. Ouais.
Oui, désolé.
Si on veut expliquer, attends, tant que tu... Si on veut expliquer l'ensemble, on est obligé de partir du départ et aller... Ouais. Sinon, on ne comprend pas le cheminement.
Okay.
Enfin, le cheminement que nous, on a envie d'expliquer.
Ouais. Okay.
Qui est justement le cheminement que personne ne connaît.
OK.
Alors, en fait, en 71, il y a un secrétaire d'État à la Défense qui s'appelait Fanton et qui a déclaré... Alors, je ne me rappelle pas la date exacte. Qui a déclaré que le camp militaire du Larzac allait être porté de 3000 hectares à 17000 hectares pour les besoins d'entraînement des troupes en France. Quoi. Et notamment tir d'artillerie, enfin, etc. Parce que grand espace, et voilà. Et en fait, tout le monde a appris, notamment les paysans du Larzac, ils ont appris à la télé, en regardant la télé, que... ils allaient être expulsés probablement, vu que pour étendre le camp de 3000 à 17000 hectares, ça passait par chez eux. Quoi. Donc, et en fait, tout le monde a appris ça, mais comme ça, par la télé, sans aucune préparation, sans qu'il y ait un débat public avant, ni même une consultation des politiques, ou alors on n'en savait rien. Enfin, bref, c'était vraiment... Une nouvelle qui est tombée comme ça, brusquement. Et les paysans, sur le coup, ils n'ont pas réagi. C'était des gens qui étaient catholiques, qui allaient à la messe le dimanche, qui ne travaillaient pas le dimanche parce qu'il fallait aller à la messe, et il ne fallait pas travailler le dimanche. C'était des gens qui étaient très respectueux du pouvoir en place. C'était des gens qui étaient à droite et qui ne pensaient pas une seconde devenir des contestataires, quoi. Et donc, eux, au début, n'ont pas réagi du tout à cette nouvelle. Ils ont réagi parce qu'ils étaient interloqués, donc ils se sont dit « mais qu'est-ce qui va nous arriver ?» Mais ils n'ont pas réagi par une négation de ce qui venait d'être dit, en disant « mais ça, c'est impossible ».
Oui, ils ne se sont pas dit « on va faire quelque chose ». Ils se sont dit « c'est pas possible ».
Okay. Et nous, les jeunes de Millau, on était plein de jeunes à Millau, qui, d'emblée, on a dit « non, c'est pas possible, non au camp ». Ça a été notre slogan,
et nous,
qu'on a brandi dès le lendemain de cette annonce. Et on était traités de provocateurs par les paysans eux-mêmes, qui disaient « attendez, c'est pas vous qui êtes concernés, c'est nous ». Or, nous, et entre autres nous en tant qu'éclés aussi, le Larzac, c'était notre terrain de jeu. Ceux dont les militaires voulaient faire leur terrain d'exercice, nous, c'était notre terrain de jeu. Et ça passait pas. En plus, moi, de mon éducation protestante que j'avais rejetée, que je contestais complètement, faisait de moi en même temps un pacifiste et un antimilitariste. Et j'étais en plein là-dedans, et j'adhérais au MCA dans ces conditions. C'est-à-dire que pour moi, l'armée, la guerre du Vietnam qui sévissait à l'époque, enfin tout ça, c'était l'horreur et je ne voulais pas en entendre parler. Et donc l'annonce d'extension du camp militaire, ça a été quelque chose qui m'a mobilisé, mais tout de suite, quoi. Et c'est vrai que les éclés, donc j'y étais moins présent parce que j'étais en fac à cette époque à Montpellier. Mais par contre, je suivais quand même le groupe de Millau et Philippe avait pris la relève de ce que j'y faisais à cette époque-là. Et le groupe de Millau a suivi contre l'extension du camp militaire. On nous prive de l'endroit où on est heureux, quoi.
Philippe, toi, tu voulais réagir.
Je voulais réagir parce que là aussi, on a passé des étapes qui, par rapport, si tu veux, à notre situation des clés, ont leur importance. C'est-à-dire, il faut imaginer qu'à ce moment-là, tout était un peu en ébullition. Donc, il y a eu des anarchistes aussi qui, sur le lycée, ont lancé un journal qui s'appelait La Mèche, évidemment, sur lequel ils ont attaqué à mort toutes les notables de la ville, etc. Il y a eu, tu vois, il y avait le bouleversement était important. Donc, c'était des maîtres d'internat du lycée. Alors, il faut imaginer que le lycée, c'était pas comme le lycée maintenant. Quand je disais lycée, moi, je suis rentré au lycée de Millau. En septième, j'en suis sorti après le bac. Si tu veux, il n'y avait pas l'étape collège. Tout était ensemble. D'accord. Donc, c'est pour ça que moi, mes grands ancêtres, qui étaient en terminale, moi, j'étais en quatrième, troisième, etc. Et j'étais quand même au lycée. Tu vois, c'était très différent. Donc, on voyait ce qui se passait. Et disons que à ce moment-là, bon, Marc était mon responsable d'unité, donc on faisait des activités et tout ça. Et donc toute cette période, c'était un brouhaha, si tu veux. Le Larzac est arrivé que dans un brouhaha général. Il faisait partie d'un élément d'un brouhaha général. Et donc sur Millau, si tu veux, sous l'influence des Mao, donc de Marc et compagnie, ils ont créé un regroupement politique sous un nom qui était un nom national des Mao, qui s'appelait le Secours Rouge. Et qui, en réalité, sur Millau, est devenu une espèce d'assemblée de tous les gens de gauche, c'est-à-dire la gauche du PS, le PSU, qui à l'époque était un petit peu, si on peut le comparer syndicalement, à Sud, tu vois, un truc où il y a du mouvement, quoi. Il y avait des chrétiens de gauche, il y avait tout ça, qui sont regroupés dans ce truc, un peu à l'initiative des Mao, c'était rigolo, mais ces Mao-là, à cette époque, c'était des Mao de Millau, c'était Marc, c'était des gens comme ça. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés dans ces réunions, Et c'est là où, en quelque sorte, on a préparé le Larzac. C'est que, à ce moment-là, il y avait, au bout du Larzac, il y avait l'armée qui faisait des essais dans un tunnel de l'ancienne voie de chemin de fer qui traversait le Larzac. Ils faisaient des essais d'explosifs. Et donc, il y avait quelqu'un qui était au PSU qui s'appelait Robert Siméon, qui était à ce moment-là, qui a été un peu berger sur le Larzac, qui est un ancien typographe parisien, etc., etc., et qui depuis habite à Millau depuis, qui était le représentant du MDPL-MCAA, voilà. Donc, dont Marc a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire contre l'armement atomique et tout ça. Et disons, ça nous a servi de couverture pour entamer le démarrage de l'affaire du Larzac. C'est-à-dire la première manifestation de Larzac qui a eu lieu entre la ferme de l'hôpital et la cavalerie, ça a été la couverture, ça a été le MDPL, l'MCA.
C'est ça, oui.
Donc en fait, ce groupe-là, c'était à la fois un endroit où vous vous réunissiez déjà avant l'annonce de l'explosion et qui vous a servi ensuite à enclencher le début de la mobilisation.
Voilà. Disons qu'on a été d'autant plus réactifs qu'on était déjà prémobilisés sur le thème de l'antimilitarisme, de l'opposition au nucléaire, enfin,
etc. Et puis l'opposition, surtout au pouvoir, qui était encore un pouvoir, c'était encore, si tu veux, après 68, le gaullisme a continué, avec un tout petit peu de Gaulle l'année d'après, et puis ensuite Pompidou derrière. Donc c'était toujours les mêmes gens qui tenaient cette France sclérosée. Donc ça continuait, les gens en avaient marre. La gauche n'avait plus été au pouvoir depuis des années, etc., etc. Donc tout le monde se regroupait dans l'opposition. C'est plus facile de se regrouper dans l'opposition que quand on est au pouvoir.
Okay.
Et donc ça a démarré comme ça, sachant qu'à cette époque-là, sur Millau, qui était encore une ville ouvrière, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait des syndicats qui étaient puissants. Alors il y avait deux choses. Il y avait le syndicat CGT, qui était complètement inféodé à cette époque-là, au Parti communiste, et par contre la CFDT qui était déconfessionnalisée puisque c'était passé de la CFTC, la majorité de la CFTC,
donc syndicat avec chrétien.
Le syndicat ouvrier qui était un syndicat chrétien, était laïcisé, était devenu la CFDT. Et donc sur Millau, cette CFDT-là, c'était le mouvement. Si on veut le comparer, c'est pas tout à fait pareil, mais si on veut le comparer, on peut le comparer à Sud maintenant.
C'est un endroit où il se passait des choses.
Quoi. Où il se passait des tas de choses et tout. Donc là aussi, ils se sont mis à en parler dans les usines et tout ça. Il faut imaginer que le Larzac, tout à l'heure Marc expliquait que pour les éclaireurs, c'était notre terrain de jeu, le Larzac, mais c'était le terrain de jeu des Millavois. Et donc, ce terrain de jeu, et entre autres, il y avait beaucoup de terrains qui étaient des communaux de Millau.
D'accord.
Et les chasseurs, par exemple, se sont opposés au camp du Larzac. Il y a eu des tas de trucs. Si tu veux, dans la population, il y avait un centre aéré aussi catholique qui était sur le Larzac. Ça a fait hurler les catholiques parce qu'on leur prenait leur centre aéré. Tu vois, il y a eu toute une... Donc ça a aggloméré le démarrage de la lutte du Larzac, a aggloméré pratiquement toute la ville à un moment où la municipalité était gaulliste.
Et cette première manifestation dont tu parlais partait justement de la ferme de l'hôpital qui était propriété de la commune.
Oui, propriété de l'hôpital de Millau.
Oui.
Ça date du Moyen Âge.
Oui, c'était une dépendance de l'hôpital.
C'était une dépendance de l'hôpital qui permettait de nourrir les malades. Et donc à ce moment-là, si tu veux, il s'est créé toute une ébullition qui regroupait bien plus que des gens politiques. Qui regroupait toute la population, finalement, contre ce truc qui arrivait et qui allait prendre le terrain où le dimanche, les gens allaient ramasser les champignons, des oreillettes, le pleurote du panicot. C'était une institution sur Millau. Donc tout le monde... Bon, la municipalité, évidemment, a été prise en porte-à-faux, ça hurlait de partout. Et alors, ensuite, il y a deux entités qui se sont mises en place. C'était le comité millavois de défense du Larzac, qui étaient plutôt des politiques, et sur lequel ces associations, dans un premier temps, les chasseurs et tout, ont rejoint. Mais au bout de quelques temps, ils ont été bloqués par le fait qu'eux se disaient apolitiques. Donc ils ont créé d'autres structures, et les associations de nature de Millau ont créé une association qui s'appelait la Fédération pour la vie et la sauvegarde des Grands Causses, dont je suis un des présidents actuels. Et cette association a regroupé toutes les associations de nature qui s'opposaient à l'extension du camp du Larzac.
Donc progressivement, en fait, d'un petit noyau, la protestation à la fois s'est étendue, mais c'est aussi structuré. Les gens qui, au début, étaient tous ensemble, ont chacun trouvé leurs espaces avec les gens qui...
Alors, le lien, si tu veux, avec les paysans, là, on en vient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le lien avec les paysans, c'est que les paysans, petit à petit, Marc aussi a expliqué cette démarche de paysans. L'État a décidé ce projet d'extension du camp, ils se sont basés sur des études qui dataient de plus de 10 ans.
Et en termes de fréquentation du Larzac, c'est ça, en termes de qui était dessus.
Qui était dessus. Sauf qu'entre-temps, il y avait eu un changement complet de génération. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des jeunes qui avaient repris l'exploitation de leurs parents, donc des locaux, plus des gens, par exemple, la ferme de l'hôpital avait été reprise par la famille Burguière, qui était originaire du nord de l'Aveyron, qui était venue ici et qui était donc... gérant de la propriété de l'hôpital de Millau, et d'autres jeunes, certaines de la région, d'autres qui venaient d'ailleurs, qui avaient entre autres fait l'école des bergers de Fontainebleau, école des bergers, je ne sais plus si ça existe ou si ça s'appelle comment ça maintenant, et qui s'étaient installés et tout ça. Et il y avait aussi d'autres gens, il y avait un ancien militaire, Tarlier, qui avait acheté une grosse propriété et qui essayait de faire de l'agriculture plus industrielle que ce que faisaient les autres.
Et qui, lui, était un rapatrié, je pense, d'Algérie.
Qui venait du Congo, qui avait été capitaine dans l'armée, etc. etc.
Et faut ajouter à ça aussi que dans ces 10 années qui avaient été un peu zappées, s'était développé aussi beaucoup la mécanisation des
exploitations. De l'agriculture.
Et donc, ça avait pris une toute autre dimension. C'était plus du tout les fermes, je dirais, un peu arriérées, telles qu'elles avaient pu être analysées 10 ou 20 ans avant. C'était, au contraire, des exploitations qui s'inscrivaient dans une dynamique de développement moderne, avec tout l'outillage... qui était proposé et qui permettait de travailler plus de terrain, mieux, etc. Également, il y avait aussi dans les arguments de l'armée le fait que le plateau du Larzac, comme tout l'Écosse, était classé comme des zones désertiques. Parce que pour quelqu'un qui n'y connaît rien, traverser le Larzac, par exemple, en plein été, quand tout est sec, on croit être dans un désert. Or, les brebis, la cône qui broute l'herbe dont on tire le roquefort, etc., sont des bêtes qui s'adaptent très bien aux herbes sèches et aux pâturages extensifs qu'on retrouve sur l'Écosse. Le développement du roquefort et également de l'industrie de la peau à Millau est très lié aux grands causses qui entourent. Il n'y a pas que le Larzac, il y a aussi le Causse Noir, il y a aussi le Causse Méjean et le Sauveterre, qui sont tous ces grands causses qui sont vraiment des lieux très bénéfiques pour l'élevage ovin et la fabrication de fromage et le développement de l'industrie du gant sur Millau. Voilà. Tout ça est très lié.
Et du coup, vous, là-dedans, donc vous étiez à la première manifestation, et puis après, quelle part vous, à titre perso ou collectif, comment vous êtes inséré là-dedans dans la suite de cette mobilisation?
Alors, au début de l'affaire de Larzac, il y a eu plusieurs mouvances qui ont porté ce truc-là. Alors les paysans, eux, ils se sont tournés à l'autre bout du Larzac, il y avait une communauté qui avait été créée par un type qui s'appelait Lanza del Vasto, une communauté non violente, mais une communauté religieuse catholique. Religieuse, pas tellement, puisque c'était, je dis religieuse, mais c'était des couples et tout, c'était des familles, mais qui vivaient, disons, qui essayaient de faire un retour à la nature, qui élevaient des brebis, qui faisaient du fromage, etc., etc.
En autarcie, quoi.
Voilà, en autarcie, avec une espèce de gourou qui s'appelait Lanza del Vasto, qui avait une grande barbe, qui était habillé avec des houppelandes de laine, etc., etc. Et donc, pour les paysans, ça a été formidable, parce que ça correspondait à leur religion, à leur catholicisme, un patriarche comme ça qui dominait tout ce monde, qui avait connu Gandhi, etc., etc. Donc ils sont rentrés dans ce jeu-là, le jeu de la non-violence et tout. Alors ça a eu un intérêt, c'est que ça a permis de créer un espèce de mythe, tu vois, de mythe qui ensuite a donné le mythe des paysans du Larzac.
Un cadre symbolique.
Voilà. Et par contre, si tu veux, derrière, il y avait d'autres gens qui se sont agglomérés à cette lutte, qui étaient à ce moment-là le mouvement d'extrême-gauche qui était en vogue, qui était les Mao, qui avait dans un premier temps un journal qui s'appelait « La cause du peuple », puis ensuite qui a eu un journal qui s'appelle « J'accuse », et qui ensuite ont lancé « Libération ». Qui existe toujours, mais qui a suivi d'autres chemins par la suite. Et donc, si tu veux, dans cette ambiance d'ébullition et tout ça, il y a tout un tas de Mao de partout qui ont débarqué pour faire ce qu'ils appelaient des longues marches, parce que ça rappelait Mao, et donc qui ont dit « on va aller travailler sur l'Arzac », dont beaucoup étaient, ce qu'on a dit tout à l'heure, des fils de bourgeois général parisiens, qui étaient en rupture avec papa et maman, et qui sont arrivés là, assez évaporés, dans le genre « je vais me baigner à poil dans les rivières, je suis accueilli par un paysan, je me lève à 11h le matin, je dis que je viens de travailler mais je ne me lève pas, je fais la fête le soir, je suis à poil dans les champs, etc. etc. » Donc tu vois, le truc, ça a complètement... les paysans, par rapport à ça, ils étaient complètement... étonné et puis un peu révolté et tout par ce genre de gens. Mais il y a une espèce d'osmose petit à petit. Les Barjots sont repartis. Toute cette bande-là qui était en réalité qui sont redevenus des bourgeois après leurs parents se sont éloignés. Mais de cette masse-là, il est resté un certain nombre de monde qui est resté sur le Larzac. Qui est resté sur le Larzac, qui eux ont fait l'effort d'intégration et l'effort de travailler avec les gens qui étaient sur place.
Et donc qui ont bossé dans les fermes du Larzac, en soutien...
aux paysans qui étaient là.
Et qui...
Certains sont devenus des paysans
et eux-mêmes. Et les paysans eux-mêmes étant de plus en plus pris pour populariser leur lutte contre l'extension.
Ils avaient besoin de bras.
Ils avaient besoin de bras aussi. Et il y a pas mal de... des personnes de cette époque-là qui allaient donner des coups de main pour garder le troupeau ou traire, ou, etc., quand le paysan était pris par un meeting, une manifestation quelconque.
Alors, donc la lutte du Larzac s'est lancée, si tu veux, le mythe Larzac s'est lancé sur un agglomérat qui était complètement
hétéroclite.
Tu retrouvais des cathos, l'évêque de Rodez s'était prononcé contre l'extension du camp, dont les curés étaient contre, il y avait des curés dans la lutte, il y avait l'extrême gauche qui était, tout ça était dans un même, les paysans et tout ça était dans un agglomérat, et c'est ce qui a fait finalement, a posteriori, on peut dire, le résultat de la lutte. C'est-à-dire que tout le monde s'est aggloméré sur ce projet autour de ce qui a été, après les 103 paysans du Larzac, à un moment donné, ils ont décidé de faire un serment, de dire que tous les 103 ne vendraient pas l'armée. Donc ça fait une espèce de... ça crée une espèce de mythe qui s'est étendu en France à une époque où la presse officielle était complètement contrôlé par l'État, donc ne parlait absolument pas de ça, ou les journaux régionaux n'en parlaient absolument pas, personne n'en parlait, mais par contre, dans tout le monde underground, tout ça s'est diffusé donc par l'intermédiaire de tous ces mouvements.
Et en fait, ce qui a été très important, justement, ça a été la création des comités Larzac. Voilà. Dans toutes les villes, les villes, même petites, se sont créés des comités Larzac en soutien à la lutte et qui rassemblaient des gens de tous horizons politiques et intellectuels ou non, voilà. et de pensées diverses, etc. Et l'action des comités Larzac a été très déterminante parce que ça a répandu vraiment ce feu qu'il y avait autour de l'extension partout en France. Et même dans les pays voisins.
Et alors, du coup, c'est une mobilisation, c'est une lutte qui dure 10 ans, en gros. Vous avez vécu, vous avez grandi pendant ce temps-là. Est-ce que ça a eu une influence sur vous? Qu'est-ce que ça a changé dans vos pratiques, vos réflexions, votre vie? Est-ce que ça a changé des choses?
Oui, bien sûr. Mais ça veut dire, si tu veux, que c'était quelque chose... J'ai été pendant 10 ans au comité de mis à voie de défense de l'Arzac. Mmh. Alors, il s'appelait comité mis à voie de défense de l'Arzac, parce qu'il se comptait comme partie prenante de la lutte. C'est-à-dire, ce n'était pas un comité Larzac, comme dit Marc, oui, qui était des comités de soutien. Nous, sur Millau, on estimait qu'on faisait partie de cette lutte et que c'était notre territoire, au même titre que les paysans, mais pas en dessous. Et donc, ça a été longtemps une bagarre pour essayer de nous imposer face à eux, d'être reconnus comme...
Par intégrante
de la lutte. Ce qu'eux ne voulaient pas, parce qu'eux, ils avaient bien conscience de ce mythe. Parce que je parlais tout à l'heure de Tarlier, cet ancien militaire qui a été un peu un stratège de la lutte des paysans. Lui, il avait un sens politique, il avait tout ça. Donc, il a posé un cadre qu'il a essayé de faire le plus large possible et tout ça, justement pour intégrer toutes ces ambiguïtés. Et donc, eux, ils voulaient maîtriser... Tout ça pour contrôler, avec cette idée de partir aussi sur non-violence, alors qu'il y avait beaucoup d'éléments dans la lutte qui n'étaient pas spécialement des non-violents. Il faut voir qu'à cette époque-là, il y a eu des explosifs, il y a eu des trucs qui ont sauté. À côté de Bécourt, le viaduc de Vézouillac, qui est un autre hameau de la commune de Verrières, où il y avait un viaduc, les Maos ont fait sauter le viaduc. Il y avait des explosions un peu partout. Et dans les deux camps, il y a une famille de paysans du Larzac, les Guiraud, à la Blaquière. Leur maison, ils avaient 7 enfants et il y a des partisans du camp qui ont foutu une bombe et toute la famille a failli mourir. Donc c'était, tu vois, c'était pas que non violent. Mais par contre, les paysans, pour agglomérer le maximum de monde, pour avoir l'église derrière eux, pour avoir tout le monde, se sont lancés dans cette idée de non-violence et ont créé ce mythe des paysans du Larzac qui est devenu un truc extraordinaire, quoi, et qui reste maintenant, l'image d'une lutte incroyable, mais qui était vraie aussi, qui était une réalité.
C'était quand même devenu le support essentiel.
Oui.
C'était devenu le support essentiel, c'est-à-dire qu'il y avait une base décidée non violente par les paysans et tout s'articulait autour. Alors évidemment, il y avait les violences que tu viens de citer autour, mais qui n'était pas prédominante. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de mort sur les manifestations du Larzac, sur toutes les actions qu'il y a eu. Il n'y a pas eu de mort. Il y a eu évidemment des blessés dans des manifs, il y a eu beaucoup de gens qui ont été réprimés, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que peut-être après, dans l'évolution qu'il y a eu, tous les recours possibles ont été utilisés pour essayer de repousser,
etc.
Sur le plan juridique, sur le plan... Et tous les recours ont été utilisés. Et quand on est arrivé en 80, alors là, peut-être je résume un peu vite, mais pour fixer un peu l'évolution de la chose, quand on est arrivé en 81 avec l'élection de Mitterrand, qui avait mis dans son programme, bien qu'il se soit fait molester lors d'une manifestation sur le Larzac, il avait mis dans son programme que s'il était élu, le projet d'extension serait annulé du jour au lendemain, ce qui a été le cas. En 81, il faut se dire un truc, c'est que les paysans et tout l'arsenal juridique qui avait été développé pour les aider étaient arrivés un peu au bout de toutes les procédures possibles, et que si Mitterrand n'était pas passé en 81, je ne pense pas que ça aurait tenu le coup.
On n'en pouvait plus.
On était au bout de la lutte. Et franchement, là... On peut tirer le chapeau à Mitran pour ça, parce que ça, il l'a réussi. Et dès le lendemain, et il a
perdu la crise. C'était pas le lendemain, parce que moi, je me rappelle
qu'après le surlendemain, c'était...
Après l'élection, on a eu toute une période là où est-ce qu'il va respecter, est-ce qu'il va pas respecter, ouais, ouais. Où on était tous... on était bien contents qu'il passe, parce que la gauche n'avait pas été au pouvoir depuis une éternité. Mais de l'autre côté, on avait cette angoisse qu'il ne tienne pas cette promesse. Et il y a eu... Enfin, moi, dans ma tête, ça a duré longtemps, si tu veux. Ouais. Alors, je ne sais pas, toi, tu dis quelques jours.
Non, c'était quelques jours.
Mais dans ma tête, on a passé une période là où on se téléphonait tous, où on se contactait tous, on était angoissés parce qu'on se disait, est-ce qu'il va respecter ou pas.
Non,
et honnêtement...
Ça a été affaire d'une semaine, je crois.
Ouais. Et honnêtement, ce que dit Marc est vraiment vrai, c'était vraiment le bout de la lutte.
Ouais.
Alors, ce qu'il y a eu d'intéressant dans cette lutte, c'est qu'elle a été très imaginative. C'est-à-dire qu'il a été lancé, par exemple, tous les moyens juridiques ont été utilisés. Donc, il y avait des types, des juristes, des avocats, etc., qui ont planché sur le sujet et qui trouvaient des solutions. Par exemple, l'achat d'une parcelle de mètres carrés de terrain par des centaines de personnes. Ce qui fait qu'après, il y avait des centaines de personnes qui étaient propriétaires de leurs actes. Donc, pour exproprier, c'était très compliqué parce qu'il fallait qu'ils retrouvent tous les nouveaux propriétaires d'une parcelle de mètres, etc., etc. Il y a eu tous les trucs imaginatifs possibles et imaginables ont été lancés. C'est ce qui a été après porteur pour toutes les autres luttes qui ont suivi un peu imaginatives. Donc les ZAD, les trucs, les machins, finalement, ils se sont référés à ça, aux moyens qui ont été utilisés sur cette lutte de l'Arzac, qui était très imaginative.
Bon, et alors vous ne m'avez pas répondu, qu'est-ce que ça vous a fait, vous, d'avoir vécu ça pendant 10 ans? Alors, est-ce que ça vous a transformé? Est-ce que, en fait, vous étiez les mêmes au début, à la fin? Qu'est-ce que vous en avez tiré aussi pour la suite de votre vie et de vos engagements?
Sur le plan personnel, donc, ouais. Mmh. Bon, moi, comment dire, j'habitais à Montpellier à ce moment-là. J'étais marié et dès que j'ai eu 21 ans, j'ai arrêté la fac. Parce que ça, à l'époque, la majorité, c'était 21 ans. Et moi, ça m'était imposé par mes parents, donc j'ai été en fac jusqu'à 21 ans. Et le lendemain de mes 21 ans, j'ai quitté la fac et j'ai cherché du boulot. C'était un peu justement dans ces théories maoïstes, c'était aller travailler avec les gens du peuple. Et donc moi, je suis allé à l'Agence pour l'emploi qui m'a donné des adresses d'entreprises de maçonnerie. Ils m'ont dit... si vous n'avez pas de spécialité, qu'est-ce que vous avez? La première question qu'ils m'ont posée, c'est qu'est-ce que vous avez comme diplôme? J'ai dit, j'ai rien. Et donc, ils m'ont dit, en ce moment, c'est le bâtiment. Donc, on vous donne des adresses d'entreprises du bâtiment. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le bâtiment, en fait. C'est que j'ai bossé dans plusieurs entreprises, parce qu'à l'époque, c'était pas compliqué, il y avait du boulot partout. Tu trouvais une entreprise qui te plaisait un peu mieux, tu quittais le soir pour aller dans une autre boîte le lendemain, quoi. C'était un peu ça. Mmh. Et là, j'ai rencontré vraiment des gens super sur les chantiers, et qui étaient souvent des Marocains, des Kabyles, des gens qui étaient un peu les... Et moi, j'étais manœuvre là-dedans, manœuvre dans le bâtiment. Et ça me plaisait bien, je me régalais de bosser, puis surtout de travailler de mes doigts, parce que ça, c'était un souhait que j'avais depuis très longtemps. Et voilà. Et en fait, je suis resté là-dedans. C'est-à-dire que ce processus de s'établir pour aller travailler avec les gens, avec les classes populaires, etc., moi, je suis resté là-dedans après toute ma vie, jusqu'à la fin. Sauf qu'il arrive un moment où il faut prendre des responsabilités, puis à un moment, la boîte pour laquelle je travaillais était en train de plonger, et j'ai repris le truc en créant une SARL dont j'ai été le gérant. C'est-à-dire que mais par contre, je suis resté toujours à bosser avec les ouvriers de l'entreprise, quoi. Je me plaçais au même niveau qu'eux, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est resté en moi tout le temps. Et donc après, concernant le Larzac lui-même, eh ben, donc, dès qu'il y a eu ce décret, comme quoi le camp militaire allait être étendu, je suis revenu m'installer à Millau. J'ai quitté Montpellier, je suis revenu m'installer à Millau. J'ai travaillé pour des boîtes à Millau. Puis après, j'ai été rattrapé par le service militaire, vu que j'avais abandonné les études. Donc j'ai fait mon service militaire. Ça a été assez mouvementé, parce que j'arrêtais pas de parler du Larzac autour de moi. Donc tout le monde me surnommait Larzac. Et ce qui n'était pas facile à porter devant les officiers et les autorités militaires. Et donc j'arrêtais pas d'être mis aux arrêts. Arrêt simple d'abord. Et puis après, j'ai carrément fait de la cellule. Je suis allé à une manifestation du comité Larzac d'Avignon. J'ai fait le mur de la caserne pour aller à ce rendez-vous où je connaissais bien sûr les gens du comité Larzac d'Avignon. Il y avait un paysan du Larzac qui était descendu, même deux ils étaient. Et moi j'étais intervenu aussi en tant que militaire du contingent et pour parler de la condition de ce qui se passait dans les casernes, etc. Et en même temps soutenir la lutte des paysans du Larzac, parce que je m'estimais
partie prenante
du Larzac. Quoi. Voilà. Et deux jours après, évidemment, il y avait les renseignements généraux. C'était un grand meeting. Hein. Il y avait 700 ou 800 personnes. Hein. Et c'était énorme. Hein. Les meetings des comités Larzac, c'était... Et... Bon, ils m'ont mis aux troupes. Là, j'ai fait 2 mois de cellule, quoi. Voilà. Et 1 mois de rab, du coup. Parce que c'était en fin de service militaire. Voilà, donc, ça a été ça pour moi. Puis, plus tard, avec ma femme, on est parti s'installer dans les Cévennes. Je restais, bien sûr, en liaison avec le Larzac. J'allais à toutes les manifs. Dès qu'il y avait une manif, c'était... impossible que j'y aille pas. Et je me tenais au courant de ce qui se passait. Mais voilà, c'était aussi l'époque du mythe du retour à la Terre. Et donc, avec ma femme, on a eu envie de quitter Millau et on est allé s'installer dans les Cévennes. Voilà. Mais le Larzac restait pour moi une des préoccupations de tous les jours. Quoi.
Et, voilà. Et du coup, toi, Philippe ?
Mais moi, je suis resté à Millau, donc j'ai participé. J'ai fait aussi le service militaire, mais comme j'étais moins courageux que Marc, j'ai pas terminé au trou. Mais quand même, j'ai été blackboulé au premier mois des classes. Tu sais, tu faisais des classes pendant 2 mois, mais au premier mois, déjà, on m'avait mis de côté et on m'avait mis à part. Et donc, ils m'ont trouvé un truc. Je réglais des émetteurs. Parce que j'étais enfermé dans une pièce et on restait toute la journée dans une même pièce à régler des émetteurs. Dans une caserne différente, j'ai passé une bonne partie de mon service militaire à Toulouse. Alors, il y avait le siège de la brigade parachutiste, il y avait le siège du 9e régiment de chasseurs parachutistes, et donc je naviguais entre les deux. Mais moi, j'étais dans les transmissions. Et donc j'étais hyper surveillé par tous les officiers, par tous les sous-officiers. Et donc j'étais dans une pièce, je réglais des émetteurs, et puis voilà, j'ai passé tout mon temps. Donc j'ai passé un an complètement déprimé, complètement...
Avant personne, en
fait. Ouais, c'était notre chambre aussi, donc on avait réglage, on avait des lits, et on passait... Alors, ceux qui étaient avec moi, c'était un qui était passé bourré au moment où on levait le drapeau, un autre qui était pour des raisons politiques, etc., etc. Donc j'ai passé mon armée comme ça, peinardement, mais enfin moralement assez bas. Et puis après, quand je suis revenu, évidemment, j'ai repris au comité militaire de défense du Larzac, etc., etc. En 80, j'ai continué à faire les activités avec le groupe de Millau.
Des éclés.
Voilà, j'étais responsable d'unité. Puis après, pour les éclés, À cette période-là, on avait 4 gros groupes sur l'Aveyron, donc ça tournait assez bien sur l'Aveyron. Puis avec Philippe Magnette, responsable de Rodez, on avait pris le... à l'époque, il y avait, les éclés étaient un peu plus importants, donc il y avait des responsables départementaux qui géraient les groupes du département, tout ça, donc j'étais responsable départemental. Puis je commençais à en avoir un peu ras-le-bol. Il y avait d'autres responsables, il y avait une possibilité de reprise sur Millau par d'autres responsables, donc je me suis dit, je vais me tirer sur la pointe des pieds. Et puis là-dessus, il y a... Un jour, Bernard Machu, Roland Daval et tout ça qui ont débarqué, qui ont dit on a acheté un village, un hameau juste au-dessus de... Voilà, ils se sont pointés dans, le local de notre toujours responsable de groupe qui était passé des EU aux EDF et qui avait été directeur de la fabrication d'une usine de gants qui s'appelait Buscarlet et qui en avait eu marre à un certain âge. Donc il s'était installé comme relieur, qui avait une boutique dans Millau. Et donc ils sont arrivés dans la boutique, on les a racontés comme ça. On a commencé évidemment à les engueuler en leur disant « Vous êtes un peu gonflés, vous venez acheter un... vous avez un groupe sur la ville, vous venez les avertir que c'est fait, que vous avez acheté un hameau et vous n'avez même pas parlé, etc. etc. » Puis maintenant, vous venez de dire « Est-ce que vous voulez bien faire un concierge ?» Quoi, ça revenait à ça. Et donc, on te leur a passé un viron du diable. Et puis après, Marc a raconté comment ça s'est passé après par la suite.
Et alors, du coup, en fait, Bécourt commence au moment où le Larzac finit.
Oui.
Et du coup, il y a des gens de Millau, évidemment, qui finissent par s'impliquer sur les débuts du hameau. Et du coup, des gens qui ont été dans cette mobilisation à divers, à divers titres. Est-ce qu'il y a eu des prolongements ou une inspiration? Ou est-ce que vous y avez retrouvé alors, des choses?
Oui.
Est-ce que vous pensez, par exemple, est-ce que vous pensez que Bécourt aurait été différent s'il n'y avait pas eu le Larzac?
Je vais être plus global. Alors, moi, à ce moment-là, j'avais fait un petit peu pareil. Finalement, j'ai fait légèrement de la fac. Et en même temps, bon, sur le Larzac, il y avait toute une mouvance occitaniste, etc., et qui avait participé dès le début de l'affaire du Larzac. Donc, au début de l'affaire du Larzac, par exemple, ils avaient mis des affiches partout dans Millau avec une fille... un réverbère et avec une fille contre le réverbère en marquant du travail pour, en occitan, du travail pour vos filles avec le camp du Larzac. C'était pour mobiliser la population.
C'était subtil.
Et ouais, mais c'était pas idiot parce qu'à l'époque...
Oui, caserne, ça voulait dire...
Les casernes voulaient dire aussi pas mal de personnel féminin dans les villes autour, avec plus ou moins la complicité des autorités militaires... pour les besoins de leur population masculine. Et donc, ils avaient distribué ça pour choquer la ville, justement, pour réveiller la ville. Des travaux per nostra sfia, am Lucan del Larzac. Et donc, moi, j'étais plus inspiré par ce mouvement-là, qui était aussi assez proche des Mao. Il y en avait, enfin, c'était une mouvance...
très gauchiste,
très à gauche,
ouais,
très à gauche, gauchiste, ouais. Un mouvement qui s'appelait Lutte Occitane. Et donc j'ai fait plein de choses avec eux. Quand j'étais étudiant, j'étais pas souvent à la fac, mais j'étais souvent avec eux. Donc on a fait des tas de trucs. J'avais des copains qui avaient été aussi à Millau, etc., qui faisaient partie de ce mouvement. Dont un, Alain Souvier, qui a été un peu pendant très longtemps le bras gauche de José Bové, qui faisait des trucs avec José Bové et tout ça, qui était un agriculteur qui était plutôt à la limite du temps. Lui, il était à Salel, dans le sud d'Aveyron, et qui avait été un de mes amis de lycée. Et donc... je ne sais plus où je voulais en venir d'ailleurs.
C'est la question de est-ce que Bécourt aurait été différent, voilà, sans le Larzac, ouais. Et c'était quoi
Et donc, si tu veux, moi j'ai continué en même temps les éclés. Et en même temps, j'ai donc travaillé sur Millau. Je me suis mis à travailler, si tu veux, j'ai travaillé dans l'imprimerie. Bon, parce que moi, les bouquins, ça m'intéressait tout ça. Avec les éclés, j'avais visité l'imprimerie Maury, qui était sur Millau, qui est actuellement un des plus gros imprimeurs en France. Et ça m'a titillé. Il y a eu la possibilité, la Chambre de commerce de Millau a organisé un stage de formation. Donc je suis rentré là-dedans et je suis devenu imprimeur. Et le patron qu'on avait, qui était un patron qui était au PS, qui était un peu militant, qui avait fait toutes les affiches du Larzac, etc., etc. Donc m'avait embauché au bout de certains temps où j'étais passé dans d'autres entreprises et qui ne me plaisaient pas. Mais bon, il était sympa, tout ce qu'on veut, sauf que c'était un gestionnaire épouvantable. Et donc son entreprise a commencé à capoter, et on se rendait compte que ça capotait. Donc j'ai proposé à un autre collègue qu'on essaye de faire un projet, au départ qui semblait être un projet de reprise. Et moi, dans ma tête, c'était de créer une coopérative ouvrière. Donc j'en ai parlé avec ce collègue qui était le fils d'un militant du PS, d'un militant de la JOC, du côté catholique des gens qui avaient défendu le Larzac. Et donc, à tous les deux, on a décidé de monter ce projet de coopérative ouvrière. Dans un premier temps, pour la reprise de cette entreprise. Et puis, comment ça n'a pas pu se faire, parce que pour des questions de fric et tout ça, il en voulait trop alors que son entreprise a capoté. Donc, on est parti, on a lancé une entreprise, une SCOP. Et en même temps, au même moment où donc on crée cette SCOP, les éclés m'ont proposé d'être le premier permanent de Bécourt. J'avais participé dans tout ce qui se faisait à Bécourt depuis en 80 et en 81. Et donc, en fin 81, il m'a été proposé d'être le permanent de Bécourt.
Pendant que toi, tu étais plutôt élu, quoi, à ce moment-là. Tu étais élu sur Bécourt.
Pas encore.
Non, pas encore. Moi, en fait, par rapport aux éclés, J'avais lâché, sauf que pendant 7 ou 8 années, je m'occupais des camps.
Oui, d'accord, des camps chantiers, quoi.
Des camps d'unité. Oui. En fait, des camps de regroupement de l'Aveyron.
De l'Aveyron, oui.
De l'Aveyron.
Et il avait lâché, si tu veux,
la
vie du groupe local, mais on le rappelait pour les camps.
D'accord. Voilà.
Et donc, il venait dans les camps.
Voilà. Et donc, j'avais raccroché comme ça, disons. Parce que j'ai eu une période où je ne m'en occupais plus du tout. Et puis, j'avais raccroché dans les années 75, par là. Ouais. À peu près.
Et puis pendant tout ce temps-là, nous, on a gardé contact
en
tout le temps.
En 75, voilà. Et on est, voilà, chaque fois que je venais à Millau, parce que moi j'avais ma famille à Millau, donc chaque fois que je venais à Millau, on se voyait avec Philippe, je savais où en étaient les éclés, on parlait du Larzac, bien sûr. Mmh. Et voilà.
Donc si tu veux, au même moment, je suis devenu permanent de Bécourt, mais je continuais aussi le projet de la SCOP, qui elle a démarré donc un peu sans moi. Et puis au bout de 2 ans, bon, moi, j'étais pas tellement animateur professionnel, ça me passionnait pas. Bon, ce qui m'a passionné, c'est de lancer le projet, de lancer, si tu veux, les rails sur lesquels Bécourt s'est positionné, tu vois, de définir un cadre qui permettrait à Bécourt de poursuivre. Et ce cadre-là, finalement, il a perduré.
Et tu le décrirais comment, alors, ce cadre ?
Bon, c'est difficile. Attends, je continue mon histoire parce que c'est deux histoires en parallèle. On a créé cette SCOP. J'ai été donc pendant un temps le permanent sur Bécourt, mais ensuite, bon, et puis les copains, ça allait pas trop bien, la SCOP, etc. Les copains m'ont dit, ça serait bien que tu reviennes. Je suis revenu dans le projet. Avec le copain avec qui j'avais fondé, me dit, tu sais, ça va mal, etc., etc. Il a fallu resserrer les boulons et tout. Ça a été un peu compliqué. Et voilà, ça continuait comme ça. Et donc, toute ma vie professionnelle, je l'ai fait dans cette boîte et avec des engagements dans les scopes. Dans les scopes de la communication, etc., etc. Donc, j'étais à la centrale d'achat. On avait monté une centrale d'achat des sociétés coopératives. Donc, j'étais un des acheteurs, si tu veux, pour grosso modo 50 entreprises, etc., etc. Et donc, c'est pas un hasard si j'ai créé une SCOP et tout. Mais est-ce que c'est le Larzac ? Est-ce que c'est les éclés qui m'ont poussé à ça ? On ne peut pas savoir. Et puis, on est arrivé aussi à un moment où il y avait toute une ébullition. Même il n'y aurait pas eu le Larzac, c'était une période où on réfléchissait à ce genre de choses, où on commençait à se poser des questions sur l'environnement, sur la préservation de l'eau, sur tout un tas de sujets écologiques qui, après, se sont développés. Mais les problèmes écologiques, moi, quand j'avais 20 ans, les questions étaient les mêmes que maintenant. Pas tout à fait aussi évoluées que ce qu'on les comprend maintenant, de la réalité de notre petite Terre toute petite. Mais on avait déjà en tête qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'on était en train de la bousiller, que tout ce qui était environnement, il fallait le protéger, etc., etc. Qu'on avait appris en partie par la lutte du Larzac, en partie par les éclairs, parce qu'on vivait dans la nature, parce que tout ça et tout ça, qu'on voulait... Donc tout ça, c'est un tout. Et on arrivait à un moment donc, où la pensée globale de la société, il y avait une forte minorité qui s'opposait, qui était petite, mais qui était agitée, et qui se posait toutes ces questions. Alors, quelle est la part de chaque chose, après bon.
C'est difficile à quantifier, ouais. Quoi. Okay. Et alors, moi, une question que je me pose, c'est sur la question des chantiers à Bécourt, parce que quand même, quand vous racontez l'état du hameau dans lequel vous l'avez trouvé, et ça paraît un peu fou de se dire qu'il fallait se projeter sur on va mettre 10 ans, 20 ans à remettre tout ça en état, à décaisser, à remonter les voûtes, etc. etc. Enfin, fallait arriver à se projeter là-dedans. Et avec cette contrainte que t'expliquais hier, Marc, de faire bosser ensemble sur un chantier compliqué des gens qui n'y connaissent rien, quoi. Mmh. Et du coup, ça, c'est venu. Enfin, vous diriez que ça venait d'où, en fait, cette conviction que c'était possible ?
On ne s'est pas posé la question dans le temps de cette manière. On en parlait hier avec Marc. On s'est lancé dans un projet éclé, comme on se lance dans quel projet éclé ? Dans un projet éclé, globalement, chez les éclés, il y a deux sortes de gens : ceux qui font passage. Et ceux qui, tout d'un coup, se disent, tiens, c'est comme ton frère, ta sœur, tes parents, tu les aimes, tu les aimes pas, mais à un moment donné, ils font partie de toi. Et donc, tu les abandonnes pas comme ça. Même si tu es fâché avec eux, ça reste quand même tes frères, tes sœurs, ta famille. Eh bien, pour certaines personnes, les éclés, c'est un peu la même chose. C'est une deuxième famille. Et tu te poses donc pas la question de quand est-ce que ça va s'arrêter. On était restés, on est restés éclés, toute notre vie, on sera éclés... qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas, qu'on soit dans l'association ou qu'on n'y soit pas. Donc, on ne se projette pas en disant « on fait un chantier pour 10 ans, tout ça, on fait un chantier pour les éclés ». Donc, ça durera tant que dureront les éclés, si tu veux, la tête. Donc, c'est comme quand tu achètes une maison familiale, tu ne te dis pas « ma maison familiale » ou « mon projet associatif, c'est pour 5 ans, c'est pour 3 ans, c'est pour 2 ans ». Tu te dis, à la limite, tu te dis « c'est pour toujours, voilà. C'est pour la vie ».
Actuellement, quand tu... Tu lances un projet, par exemple, tu veux faire ta maison, tu vas faire un emprunt, etc. Tu vas phaser les travaux. Il faut que, à partir du moment où tu vas rembourser ton emprunt, ta maison, elle doit être finie, habitable, que tu ne payes pas un loyer ailleurs qu'à la banque. Et en fait, pour Bécourt, ça n'a pas été ça du tout. Il n'y a eu aucun phasage de travaux au départ. C'est-à-dire qu'on a pris un hameau en ruine. Et on a réfléchi à comment le réparer en sécurité, quelles sont les priorités.
Mais c'était un peu été par été, camp par camp, quoi. Mais
c'était sans dire, bon, ben, c'est pas comme quand Macron, après l'incendie de la cathédrale, a dit dans 5 ans, tout sera reconstruit, tout sera fini. Ça, c'est une connerie. Si on avait dit ça pour Bécourt, ça aurait été. On n'aurait rien fait. Donc. La question, ça a été, en urgence, que faire pour que ça ne nous tombe pas sur la gueule, par où attaquer et comment mettre en sécurité. Tu vois, toutes ces idées de sécurité, moi, c'est ce qui m'obsédait au premier chef, hein, en arrivant à Bécourt en 81. Et après, on n'avait même pas les plans d'aménagement du hameau. On a mis 3 ou 4 ans avant de les avoir, hein. On s'en foutait. Ce qu'on voulait, c'était mettre hors d'eau, hors d'air. Donc pour ça, tu n'as pas besoin de savoir à quoi servira tel bâtiment. Alors évidemment, on a développé cette réflexion au fil des réunions du CGAB et tout neuf. On s'est dit, bon, telle maison, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait du dortoir ? Est-ce qu'on fait du réfectoire ? Si on fait un réfectoire, on le fait où ? Enfin, il y a eu tous ces débats qui se sont posés. Mais on n'a pas défini dans le temps à quel moment il faudrait que le hameau soit fini. Sinon, moi, je serais reparti en courant. Quoi, parce que pour moi, c'est quand on attaque ce genre de truc, on ne doit pas se fixer une date limite, sinon on fait des conneries. Et je prends pour référence le, ce qui se passe pour la, la cathédrale Notre-Dame, quoi. Avoir dit dans 5 ans, c'est ne rien comprendre à ce qu'est la ruine d'un bâtiment et toutes les étapes qu'il faut respecter pour le respecter, pour le reconstruire dans, dans les règles de l'art. Voilà, donc on n'a pas du tout posé en termes de temps, on a posé plus en termes de moyens. Est-ce qu'on a assez d'argent pour faire ça? Est-ce qu'on a assez d'argent pour faire ça? On a pris par exemple le parti de mettre des tuiles mécaniques sur les toits parce que on n'avait pas les moyens de refaire les toits en lauze. Après, il s'est refait quelques toitures en lauze, très bien. Par contre, on s'est dit, faisons solide pour pouvoir un jour mettre des lauzes, si on en a les moyens. Ça, oui.
Mais du coup, ça n'a jamais été décourageant de se dire, ah, il reste tout ça à faire, et en fait, 40 ans après,
non.
Il y a encore une maison qui n'est pas finie.
Non, c'était pourquoi? Pas décourageant.
On n'est pas une association de chantiers. Et Bécourt, le chantier, c'était un peu le cœur de ce qui se passait sur Bécourt. Mais il y avait d'autres... c'était qu'une partie de Bécourt. L'idée... Au moment de Bécourt, c'était, il y en avait qui faisaient du théâtre, il y en avait qui faisaient de la musique, il y en avait qui faisaient, tu vois, il y avait des moyens modernes. Il y avait une radio sur Bécourt en 81, il y avait tout ce qui se lançait, le solaire, tout ça, Pascal Henry, qui était objecteur de conscience au siège, avec comme projet tout ça. Et il faut voir qu'aussi à cette époque-là, Bécourt était directement lié à l'équipe nationale. Pas qu'à l'équipe nationale, au comité directeur aussi, puisque l'achat de Bécourt avait été une décision du comité directeur. Donc on était indépendant de la région et tout ça, on était le centre national, il n'y avait que Bécourt. Et je dirais que la symbiose entre nous, les gens qui étions au quotidien, si tu veux, du fonctionnement de Bécourt, et l'équipe nationale était totale. C'est-à-dire, c'était Roland Daval, c'était Bernard Machu, c'était un certain nombre de gens. Quand on avait un problème, on passait un coup de fil et en 5 minutes, on le résolvait ensemble. Avec Roland, ça se passait comme ça. Quand j'étais permanent de Bécourt, je prenais mon téléphone, je l'appelais et je disais, il y a tel truc, il y a tel truc, il y a tel truc. On discutait 5 minutes, on était d'accord sur tout. Donc, si tu veux, il n'y avait pas le siège national à qui on était obligé de référer. Le siège national, c'était eux et nous. Au début de Bécourt aussi, pendant plusieurs années, souvent l'été, l'équipe nationale, le comité directeur et tout ça, se réunissait à l'époque dans Ramad. Et je dirais que la politique générale de l'association, c'est pendant cette période-là, c'est faite à Bécourt. Donc c'est une situation assez différente de, celle dans laquelle on est actuellement.
Il n'y avait pas de date butoir en matière de restauration, réfection des bâtiments et réhabilitation. Voilà. Mais il y avait une éthique de fonctionnement.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il fallait arriver à ce que Bécourt soit multiface, un peu comme tu viens de le dire, c'est-à-dire... développer des activités, des animations, etc. Et puis du chantier. Le chantier étant une des facettes du hameau. Mais la reconstruction, je dirais, entre guillemets, de l'association au travers de Bécourt, c'était grâce au développement et à la mise en valeur de toutes ces facettes, dont le chantier.
Dans notre tête, le but, c'était pas de terminer le chantier. On s'en foutait. Ce qu'il fallait, c'est qu'au contraire, il dure le plus longtemps possible. Puisque c'était tout en bossant comme des malades et tout en essayant d'aller le plus vite possible. Mais de se dire, ce moyen-là, utilisons-le longtemps puisqu'il plaît. Puisqu'il plaît à tout le monde et tout, il faut le faire durer. Et c'est ce qu'on a essayé de faire.
Et comme il y avait beaucoup à faire, on n'avait pas besoin de déconstruire la nuit pour reconstruire le lendemain. Hein,
c'était... Voilà. Donc c'était qu'un élément, si tu veux. La question de terminer le chantier, on n'en avait rien à foutre. On n'était pas là pour terminer, on était là pour faire de la pédagogie, pour faire des éclaireurs, pour créer des citoyens, pas pour créer des maçons. Même si on a créé des maçons, même si on a créé des charpentiers, même si on a créé... Parce que des gens ne se sont plus ici. Et ensuite, on en fait... parce qu'ils ont découvert, des enfants ont découvert ici que ça pouvait être intéressant de faire les choses comme ça. Et ensuite, ils ont poursuivi dans cette idée plus tard.
C'est ça.
Et donc, c'est quand même significatif que Marc, qui a reconstruit Bécourt, qui a été le maître d'œuvre de ces travaux gigantesques et que même peu de maçons auraient pu réaliser, parce qu'il fallait une conception globale, c'est un peu aussi de l'architecture et tout ça qu'il a fait. Et en même temps, il était président du comité de gestion. Il n'était pas, indépendant de l'animation. Et il gérait en même temps les besoins du chantier et les besoins des animations sur le terrain, des camps, des stages et de tout ce qui se passait. Tout ça, c'était un truc global. Et le chantier n'était pas détaché du reste.
Et ben, je pense que c'est une belle conclusion. Merci. ouais, merci.
Merci à vous.
On va sans doute faire du montage pour la diffusion de demain et puis on mettra le fichier en entier sur le site de la radio. C'est une chouette histoire. Mais c'est marrant comment vous n'arrivez pas à parler de vous. Enfin, vous arrivez à parler de...
Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais... en fait... moi, justement, par toute cette enfance dans le scoutisme et la jeunesse, l'adolescence, et puis après, plus en pointillé, pour moi, ça m'a construit. Hein. Ma vie, elle est calquée sur le scoutisme. Hein, et mon attitude, après, qu'elle soit politique ou qu'elle soit d'investissement dans la société, dans le secteur où je vivais, dans le métier que j'ai développé et dans ce que je continue à faire maintenant en tant que retraité dans des associations de développement de filières pierres sèches, l'Oz, etc. Et ben, pour moi, c'est une espèce de militantisme que j'ai appris par les éclés.
Ça, ouais, c'est... Dans la vie professionnelle, moi, je gérais mon personnel comme aux éclés.
Ah, mais moi, pareil. C'était... Alors évidemment, je ne dis pas que j'ai fait des affaires en faisant ça. Mais j'ai survécu.
Oui.
Et après tout, c'est essentiel.
Eh bien, merci.